affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. C'est bien connu, la vie est un chemin qu'il nous faut parcourir en empruntant tantôt des itinéraires balisés, tantôt des sentiers de traverse. Elle est un chemin jalonné de joie et de peine qui nous enrichissent probablement de la même façon, nous édifie. Un chemin au fil duquel on peut se perdre ou se trouver, se retrouver, s'émerveiller ou se disperser. Un chemin où il est bon de se fixer un but, une destination, mais aussi parfois de s'égarer pour accueillir l'inattendu. La vie, oui, c'est entendu, est un chemin. Mais pour notre invitée de ce jour, elle a aussi été une multitude de chemins. Des centaines de milliers de kilomètres parcourus, sac au dos, nez au vent. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Axel Kahn, que chacun connaît comme médecin, comme chercheur, généticien, académicien, mais qui, dans un récent ouvrage, justement titré « Chemin » au pluriel d'ailleurs, se définit comme un homme qui marche, un cheminot, un homme dont la vie se confond avec une passion pour le cheminement et qui va, pendant une petite heure, nous proposer une escapade sur les chemins de sa propre vie, mais pour nous parler, de façon beaucoup plus générale, de la vie tout court. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous demande pas comment vous êtes rendu dans notre studio, j'imagine que vous n'avez pas pris le métro.
Je n'ai pas pris le métro, je suis venu à pied. Ce quartier, de toute façon, est magnifique et le temps, aujourd'hui, était là qui nous accueillait dans sa clarté, sa limpidité de l'annonce du printemps.
Tout voyage suppose une destination, mais aussi un point de départ et un camp de base. Et c'est ainsi d'ailleurs que commence votre ouvrage. Vous nous parlez de vos origines et de votre enfance, et en l'espèce d'un petit village des confins de la Touraine et du Berry, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous en parler, puisque c'est en quelque sorte votre Ithac, j'ai l'impression.
En effet, mais simplement une réflexion. Vous avez tout à fait raison en disant que tout chemin comporte un point de départ. Et il comporte initialement une destination. Cela étant dit, et c'est un élément essentiel qui réunit tous les marcheurs qui accordent de l'importance à cela, très rapidement, quand on est en chemin, le but de chemin n'est pas la destination, c'est le chemin lui-même. Et la manière dont on l'enrichit, dont on le décore avec tout ce qu'on y apporte. Pour revenir à cet Ithac, c'est le petit village donc de l'extrême sud de la Touraine dans lequel je suis né, le petit Précigny, à côté d'un très haut lieu de la préhistoire, le Grand Précigny, qui est très célèbre pour son industrie lithique des silex, la plus évoluée juste avant de passer à la métallurgie, où je suis né le 5 septembre 1944 et où j'ai grandi à la garde d'une paysanne extrêmement pauvre, que j'appelais Maman Nounou, les 5 premières années de ma vie. Pleinement heureux. Tout l'amour dont j'avais besoin, tout enfant en a besoin, elle me le donnait et je lui rendais au centuple. Mes parents étaient des gens que je connaissais, mais un peu des étrangers. Et quand ils sont venus me prendre pour m'amener à Paris, je l'ai vécu comme un très douloureux arrachement. Ça a été d'ailleurs une scène très pénible que je raconte. Et quand j'y réfléchis, l'une des raisons, la raison principale pour laquelle toute ma vie par la suite j'ai marché, c'est que j'ai cherché à retrouver ce paradis terrestre qu'était dans ma mémoire ce lieu de mon enfance. Et ce qui est merveilleux dans ma vie, il y a des éléments merveilleux dans ma vie, c'est qu'en effet, grâce au chemin, je les ai retrouvés. Multiples en réalité. Ça n'est pas toujours vers le petit Précigny que mes chemins m'ont conduit, mais très souvent vers des images très plausibles, des paradis terrestres au centre de ma quête.
Oui, vous écrivez « Le sentiment, mon lien au petit Précigny et à mon enfance campagnarde était pour moi déterminant jusqu'à aujourd'hui. Le sentiment que les rapports entre les villageois et leurs relations à une nature non urbanisée, cultivée ou sauvage, constitue un modèle idéal d'existence, ne m'a jamais quitté, il trouve là ses origines.
En effet, et voyez-vous, je vous disais quelle était mon émotion de la beauté du lieu. Tout à l'heure, hors antenne, je vous faisais la confidence que la vue que l'on avait de la passerelle des Arts vers le Vert-Galant avec la bibliothèque Mazarine, là où nous sommes, et de l'autre côté, le Louvre, était l'un des plus beaux paysages urbains de France, donc du monde. Et donc, je ne suis pas du tout insensible à cette beauté-là. Il n'empêche que pour moi, la vie naturelle ne peut s'épanouir que dans le monde de campagne. Et d'une certaine manière, pour que je puisse laisser mon cœur, mon âme se dilater de la beauté du lieu où nous sommes là, il faut aussi que j'aie retrouvé de l'énergie, que j'aie retrouvé des raisons de vivre, la capacité de vivre en me plongeant dans une nature beaucoup moins urbanisée que cela.
Oui, la marche, c'est une façon d'être un contrepoint aux artifices de la vie urbaine, professionnelle.
C'est cela, et en plus, elle m'est devenue totalement indispensable pour une autre raison élémentaire. Vous avez dit quelques éléments de ma vie, de mes métiers. Je suis, il ne faut pas y voir une injure, mais je suis ce que l'on a coutume à désigner comme un intellectuel. Et par conséquent, les intellectuels, on leur demande de donner de la matière à penser, de penser. Eh bien moi, je suis pratiquement incapable de penser sans marcher. Je considère, comme Nietzsche, qu'il n'y a pas de pensée assise. D'ailleurs, quand je suis assis bien mollement dans un train, par exemple, c'est tout à fait net, je pense brièvement parce que assez rapidement, je m'endors à point fermé. Et donc, la possibilité de ce dialogue, d'un enrichissement extraordinaire, de moi-même avec moi-même, de moi avec ce jeu qui en est un autre, comme disait Rimbaud, je suis parti lors d'une de mes traversées diagonales de la France, des Ardennes, le pays de Rimbaud, donc cette image m'a vraiment habité, c'est de marcher. Et de fait, la pensée ne peut se déployer que dans le dialogue avec cette espèce de schizophrénie de l'esprit, une partie de soi avec une autre partie de soi. Autrement, ce serait un monologue d'une incroyable monotonie. Et la marche m'apporte... Je vais vous dire pour quelle raison la marche m'apporte cela. C'est qu'elle m'évite évidemment de tomber endormi. Autrement, je tombe et ça me réveille. Mais je ne tombe pas en réalité. Deuxièmement, de la même manière que le métronome est important pour que, au rythme de ce métronome, le musicien écrive les sons qu'il a dans la tête. Eh bien, moi, ma pensée s'enroule au rythme du pas obstiné, du pied que l'on met devant l'autre, et puis après que l'on a recommencé ce geste-là. En plus, la pensée est stimulée en permanence par la multitude des images, des sensations, des émotions induites, des souvenirs évoqués que la marche réellement permet. Si bien que non seulement c'est de loin la circonstance la plus propice à une pensée riche, une pensée proactive, pas simplement en réaction, quand vous marchez de plus, vous êtes avec vous-même. Et donc, la vie moderne, la vie connectée, la vie de l'intelligence artificielle, la vie des iPhones, la vie des interpellations, est une vie dans laquelle on devient extrêmement habile, ardent, rapide à réagir. Mais une partie, et ce n'est pas la partie la plus négligeable, de la pensée doit arriver à jaillir en proaction. C'est-à-dire prendre sa source, non pas en réaction, mais au fond de soi-même, en réaction à soi-même, si vous voulez, d'une certaine manière. Eh bien ça, la marche permet à cette pensée proactive de se manifester.
Ce que je retiens dans la dernière partie de ce que vous avez dit, c'est ces questions de rythme. Vous parlez des cadences des pas, en opposition au rythme trépidant de la vie contemporaine, j'allais dire moderne, mais on est bien au-delà du moderne désormais. C'est cette nécessité probablement de se reconnecter à un autre rythme, à retrouver une temporalité différente. Et justement, dans votre livre, qui est un livre de souvenirs aussi...
C'est une autobiographie d'un homme qui marche.
Voilà. Les souvenirs ont une grande place et la temporalité s'étire au point de se confondre. Et on sent à quel point le passé reste présent pour vous. C'est aussi un des bénéfices de la marche.
C'est un des bénéfices et c'est aussi une particularité du livre. Et cela m'amène, si vous voulez bien, à faire une évocation littéraire qui est celle des écrivains de la mémoire. La référence est évidemment Patrick Modiano. Lui, c'est plutôt les quartiers de Paris. Moi, ce sont des chemins que j'ai parcourus depuis ma plus tendre enfance. Lorsque, par exemple, dans ce livre, je parle d'une promenade que j'ai faite avec maman, papa, dans le Jura, ma première promenade en montagne, mon premier contact avec ces paysages-là. Il n'y a plus aucun témoin de cela. Mes parents sont décédés, naturellement. On n'avait pas d'appareil photo, il n'y a pas d'image. Il n'y a que ce que ma mémoire en a conservé. Mais comme j'avais 6-7 ans à l'époque, ma mémoire a été sans doute très profondément remaniée, resculptée. Et lorsque je décris cet épisode, la seule certitude que peut avoir le lecteur est celle de ma sincérité. C'est bien ce qui est dans ma mémoire. En revanche, je ne peux donner aucune garantie que ce soit ce qui s'est passé. Mais en réalité, dans un épisode de cet ordre, où du passé, il n'y a que ce qui est inscrit dans ma mémoire, le passé existe-t-il en dehors de cette mémoire ? Et en réalité, l'écrivain de la mémoire extrêmement ancienne n'est-il pas en train, lorsqu'il écrit, d'écrire au présent le passé ? Et donc je fais cela.
Oui, l'avenir se construit toujours à partir du passé, c'est certain. L'identité est héritée et elle est aussi projetée. Ça, c'est une certitude. Alors revenons un peu quand même sur le passé. À travers vos souvenirs, on découvre aussi une France qui a parfaitement changé, je veux dire, qui est extrêmement exotique pour un Français du 21e siècle. Pour ne prendre que deux exemples, mais ils sont d'importance, c'est la place qu'a prise dans votre vie d'enfant et ensuite d'adolescent, peut-être d'adulte, de monstre, aujourd'hui à la splendeur bien ternie, d'un côté l'Église catholique et de l'autre le Parti communiste. On redécouvre cette France où ces deux organisations se font face, sculptent les mentalités et même la société.
De fait, je suis d'une famille catholique. Ma mère était au patronage de sa paroisse. C'était une femme de droite plutôt, fille de petit patron. Mon père était demi-juif. Son père, Kahn, était d'une famille alsacienne mais totalement agnostique. Lui-même n'était pas catholique, mais il se promenait en permanence avec un évangile, les évangiles, et il me lisait régulièrement des passages de l'évangile selon saint Jean. Ma grand-mère paternelle était une sarde extrêmement catholique et en réalité, j'ai moi-même été élevé dans la religion catholique et romaine, avec presque la totale, comme l'on dit. J'ai été louveteau, scout de France, enfant de cœur. J'étais chez les jésuites. J'ai fait ma promesse scout sur le chemin de croix, grandeur nature de Lourdes, véritablement la totale. Et cette foi était vraiment profonde. J'ai même connu, quand j'avais 15 ans, précédant immédiatement la perte brutale de ma foi, une crise de mysticisme alors que j'étais dans cette école de jésuites. Et puis, comme tout ce qui est important dans ma vie presque, au cours d'un cheminement, le cheminement d'un pensionnaire dans cette école de jésuites, les jeudis où l'on ne travaillait pas, où l'on n'était pas chez soi, et cheminement souvent sinistre, mais là, en mars, autant que je me le rappelle, alors que la vie rééclatait, que les bourgeons allaient effectivement donner des feuilles et que les nivéoles fanaient déjà, alors que les jonquilles étaient en train d'exploser, donc quelque chose qui arrivait à mobiliser toute la sève du jeune homme que j'étais, je me suis mis à réévaluer tous les éléments de la foi, un par un, et j'ai abouti à la constatation effarée, à dire vrai, que je n'accordais foi à aucun d'entre eux. Et que contrairement à ce dont j'étais totalement persuadé, il ne fallait pas du tout que j'en sois heureux, mais que je me rende compte de l'évidence, c'est-à-dire que je ne croyais pas. Et le passage de cette Église catholique extrêmement importante au Parti communiste a été logique pour moi. Parce qu'une partie de ma vie a consisté en raison à essayer de refonder ce qui me semblait ne pas devoir être jeté avec la foi, c'est-à-dire l'humanisme chrétien. Mais quand on n'est plus chrétien, c'est très difficile. Car pour un chrétien, l'homme étant la créature privilégiée de Dieu à son image, a une dignité qui va de soi. Dès lors que l'homme ne devient plus qu'un produit aléatoire de l'évolution comme d'autres, tout est à refaire. Mais il m'a semblé que c'était important d'essayer de le refaire. Et cet humanisme chrétien comporte naturellement la justice. Or, la justice, pour le garçon de 16 ans, 17 ans que j'étais, quand il y avait des conflits sociaux avec des travailleurs bien plus pauvres que leur patron, il me semblait que ça devait m'amener à être plutôt du côté des travailleurs. Quand il y avait des guerres coloniales ou des colonisateurs à des milliers de kilomètres de chez eux, canonnaient les colonisés, il me semblait que l'humanisme chrétien devait me conduire à être plutôt du côté des colonisés canonnés que des canonneurs colonisateurs. Et donc, j'ai viré à gauche, à l'extrême gauche, d'abord le tout jeune PSU, puis très rapidement au Parti communiste, où je suis resté 17 ans, c'est vrai.
Alors revenons sur cette description que vous avez faite de la foi et de la perte de la foi. Ça peut sembler paradoxal parce que vous décrivez cette nature, le bourgeonnement, la magnificence, la beauté. Et la beauté a une grande importance dans votre vie et dans vos cheminements.
La beauté a une très grande importance dans l'humanité.
Mais réexpliquez-nous ça. C'était d'ailleurs le voilà. Thème qui a fait l'objet d'un livre.
Absolument. Aussi. C'est un point qui est absolument essentiel. Il est très surprenant quand on s'intéresse à l'industrie lithique humaine d'observer que déjà il y a 1 800 000 ans, peut-être 2 millions d'années, mais en tout cas 1 800 000 ans, on voit que les outils humains commencent à adopter une perfection formelle, une symétrie, que n'exige en rien l'usage auquel on les destine. Un objet beaucoup plus grossier, comme auparavant des éclats de galets qui étaient utilisés, pouvaient faire l'affaire. Et on ne peut pas le comprendre si l'homme taillant cette pierre, le tenant dans sa main, le regardant, n'avait éprouvé un plaisir en le considérant. Et ça, c'est le plaisir esthétique. Ça, c'est la naissance de l'émotion esthétique. C'est-à-dire que, pratiquement, il y a un parallélisme entre l'apparition de l'humanité chez nos ancêtres primates non encore humains l'émergence du sentiment, de la sensibilité à l'émotion esthétique. Et par la suite, par différents mécanismes, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, la sensibilité à la beauté est un accélérateur puissant du phénomène d'humanisation, de socialisation. Parce que rien n'est plus socialisant que l'émotion partagée lorsque l'on considère de mêmes spectacles qui sont vus comme beaux et qui provoquent la même joie, le même enthousiasme chez des gens qui, dès lors, font plus facilement société. Et pour ce qui me concerne, une vie qui ne laisserait pas sa place à la beauté serait une vie en grand danger de déshumanisation. C'est tout à fait vrai. Alors, vous avez parlé de la spiritualité et de la beauté. C'est un point qui, pour moi, est très important parce que vous n'êtes pas le premier. Tout le monde me dit, mais écoutez, monsieur Kahn, vous avez une telle sensibilité à la beauté. Est-ce que vous ne voyez pas, on finit par me demander cela, le bon Dieu derrière? Et je leur dis, et avant que de me demander si je vois le bon Dieu, on me demande si je ne suis pas spiritualiste, s'il n'y a pas une spiritualité. Alors, ma réponse est oui, il y a une spiritualité. Évidemment qu'il y a une spiritualité. Mais je ne mets pas le bon Dieu là-dedans. Je vais vous dire cette spiritualité-là. Lorsque je suis comme cela en montagne, pour prendre que cet exemple-là, je monte sur le sommet, encore bas, et à droite, je tente un coup d'œil, il y a la pente qui va vers le fond du vallon dans lequel j'entends bruire l'eau. Je devine éventuellement dans un éclat de soleil les étincelles d'argent de l'eau qui cascade de pierres en pierres. Je sens l'odeur un peu poivrée des genêts qui dévalent presque pour se marier avec ce torrent, le boire goulûment, et je suis totalement exalté. Et dans ce cas-là, mon esprit est très à l'étroit dans ma boîte crânienne. Et si je suis avec une femme aimée qui est avec moi ou avec d'autres compagnons, eh bien, leur esprit ressent le même enfermement. Et nos esprits, par tous les moyens qu'ils trouvent, se répandent alors hors de nous. Et ils se mettent, eux aussi, à dévaler la pente, à aller boire goulûment ce torrent frais. Et ils vibrent, mon esprit vibre avec l'esprit de la nature. Il ne fait qu'un. Mais cet esprit n'a rien de transcendant. Je suis spiritualiste, mais ma spiritualité est profondément immanente. Sa transcendance, je n'en fais plus l'hypothèse.
Toutefois, là, vous avez décrit un émerveillement qui est celui de la nature, des choses incréées, pourrait-on dire, incréées par l'homme en tout cas. Il n'en reste pas moins qu'au fil de vos pérégrinations, vous ne manquez pas de faire de nombreux détours pour observer aussi ce qui est beau et qui vient de l'homme, peut-être, et notamment les édifices religieux, mais ce n'est pas pour revenir à la foi, c'est pour essayer de percevoir dans cette refondation de l'humanisme quelle est précisément la place de l'homme. Elle est aujourd'hui contestée, c'est pour ça que je vous pose la question. On voit l'homme comme quelque chose de néfaste qui viendrait dominer la nature, la contraindre, la détruire. Dans votre regard, on trouve quelque chose de beaucoup plus serein, un homme connecté. Allez, si j'étais catholique, je dirais à la création, mais à la nature.
Lorsque je suis dans un édifice religieux notamment, mais pas uniquement, vous avez raison, et que je suis submergé par l'émotion, lorsque je connais, je décris cela, l'épreuve du sublime, dans les éléments que je puis repérer, qui suscitent ce sentiment, cet émerveillement, j'en pleure. Je pleure à chaudes larmes. Dans ces cas-là, la beauté de nature, la beauté à Conques ou à d'autres endroits, je pleure à chaudes larmes. Il y a naturellement la beauté intrinsèque. Alors la beauté intrinsèque, il faut bien s'entendre. La beauté intrinsèque, ça n'existe pas. Est beau ce que je regarde comme beau et qui m'émeut. S'il n'y a pas un humain pour éprouver la beauté ne veut rien dire, bien entendu. Et ça, d'ailleurs, un sujet de réflexion fondamentale. Le Grand Canyon du Colorado existe depuis 400 millions ou 500 millions d'années, à peu près. Il a commencé à exister depuis cette période. L'homme n'est apparu dans ces endroits-là qu'il y a 8000 ans, pas plus. Et il le trouve incroyablement beau. Mais avant que l'homme ne soit apparu là, il y a 8000 ans, il était ni beau, ni laid, ni rien, il était, et puis c'est tout, puisqu'il n'y avait pas d'être capable de projeter ce sentiment qui est celui de la beauté. Et donc, je reviens à ce sentiment, à cette émotion que j'éprouve dans des monuments humains. Outre cette impression de la beauté, il y a l'idée de cette énergie formidable. Et dans un édifice religieux, cette énergie formidable s'appelle la foi, qui a poussé des hommes à se transcender au point d'être capable de créer tant de beauté. Et je frémis, je pleure aussi à cette énergie humaine, à cette créativité humaine, bien évidemment. Et ce qui est magnifique, on parlait tout à l'heure de ma spiritualité immanente mais partagée. J'ai ressenti cette impression du sublime un soir où, dans la beauté des lumières tamisées par le vert soufflé des vitraux de Soulages, au cœur de l'abbaye Sainte-Foy de Conques, autour de 21h, adossé à un pilier surmonté par le chapiteau de l'arrestation de la jeune sainte Foy à Agen au IVe siècle de notre ère, s'est élevé à la fois le son de l'orgue de frère Jean Daniel, avec qui je suis resté en contact, et d'un trompettiste ami qui était de passage. Montant comme cela vers les arcs de plein cintre, étant comme renvoyé, retombant en pluie merveilleuse sur tout ce qui était là. Et là, il y a eu un troisième niveau de mon émotion. C'est que j'étais, moi, qui ne crois plus au ciel, là, à être ému comme je vous l'ai décrit, et il y avait une bonne centaine de pèlerins dont l'immense majorité croyait au ciel. Eh bien, notre émotion était exactement de même nature. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas vibraient de la même manière ce soir-là.
Lorsqu'on parcourt votre ouvrage, ce qui nous émerveille le plus, c'est justement votre capacité à continuer à vous émerveiller. Est-ce que finalement, la vraie frontière, elle n'est pas là, entre ceux qui ont la capacité à s'émerveiller, avoir de la gratitude, qu'ils aient la foi ou non, et ceux qui préfèrent se réfugier dans une forme de assez contemporaine de grincement, de ricanement.
Vous avez raison. On va faire un peu de littérature moderne. J'achève à l'heure actuelle de lire le livre à très très grand succès, un livre intéressant par ailleurs, d'un auteur que j'aime bien, dont je ne partage pas du tout les idées, qui me choquent par beaucoup d'aspects, mais que j'aime bien, qui est Michel Houellebecq. C'est le dernier livre, Sérotonine. Michel Houellebecq est un excellent écrivain d'un monde qui se délite, de vie épouvantable, d'un malheur épais auquel il n'y a point d'issue. Seule la noyade, l'enfoncement progressif dans la soumission, dans la boue, dans la luxure, dans le malheur, dans la mort, est possible dans les livres de Houellebecq. Alors j'aime bien Michel Houellebecq parce que tout n'est pas faux naturellement dans ce qu'il décrit. Mais je me dis que heureusement qu'il n'y a pas, comme peintre du monde dans lequel nous vivons, que Michel Houellebecq. Parce qu'un des éléments, c'est que même si le monde était comme cela, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, pour moi ? C'est que malgré tout, eh ben on essaye d'être heureux. Que malgré tout, quand on a quelques difficultés à trouver les ressorts pour l'être à l'extérieur, nous puissions les trouver à l'intérieur. Et moi, quand j'écris, je ne fais pas du Michel Houellebecq, à part quand je parle de la France en sécession, mais même en règle générale, j'essaie d'atténuer cela par d'autres éléments. Je donne également des éléments pour sourire, des éléments pour rire, des éléments pour s'émerveiller, des éléments pour croire à l'avenir et désirer y être.
Alors vous avez évoqué à travers Michel Houellebecq deux voyages que vous avez fait, tardivement d'ailleurs, deux voyages qui étaient deux diagonales traversant la France de part en part. Le premier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes parti des Ardennes pour terminer au Pays Basque, et l'autre de la pointe du Raz, si je ne me trompe pas, vers
Menton.
Voilà. La première est appelée depuis un moment déjà la diagonale du vide, l'autre est un petit peu plus riante si je ne me trompe pas, mais même sur cette diagonale du vide, c'est plutôt une France contrastée que vous avez découvert. Est-ce que vous voulez bien nous reparler un petit peu, parce que finalement c'est tout à fait lié à l'actualité, il y a beaucoup d'angoisses très prégnantes dans la société française d'aujourd'hui.
C'est très lié à l'actualité, puisque le mouvement des Gilets jaunes... Je ne parle pas de ce qu'il en reste aujourd'hui.
Le mouvement des Gilets jaunes initial.
Voilà. Le mouvement des Gilets jaunes initial.
Celui des ronds-points, voilà. Pas celui des Champs-Élysées.
Absolument. Il est né profondément dans ces territoires que j'ai décrits et dont j'ai dit qu'ils étaient des territoires en sécession. Ce que j'ai d'ailleurs décrit, chemin faisant, alors je dis chemin faisant parce que ma première diagonale, naturellement, rend justice à cet initiateur extraordinaire de ma pensée, de cette volonté de cheminer, qu'a été Jacques Lacarrière, que j'ai bien connu en plus, et qui a écrit chemin faisant en traversant la France depuis Saverne jusqu'au château Cathare en 1971. Et j'avais lu passionnément son ouvrage. Donc, partant des Ardennes, j'ai commencé, chaque fois que je descendais des campagnes et que j'arrivais dans des territoires jadis un peu industrialisés, qui avaient connu une certaine prospérité, je commençais par voir un désastre total, un champ de ruines. Plus rien de ce qui avait permis aux femmes et aux hommes de vivre dans le temps ne persistait. Les manufactures, les usines, les ateliers avaient fermé. Souvent, les populations des petites cités avaient perdu les deux tiers de leurs habitants. Entre 50 et 70 % des personnes vivaient aux minima sociaux. Le chômage total de catégorie A était toujours supérieur à 22-24 %. 24 % à Nouzonville, dans les Ardennes, 22 % à Decazeville, dans l'Aveyron. Et sur 1500 km entre les deux, c'est toujours comme ça. Et c'était d'ailleurs extraordinairement éprouvant. Et j'ai indiqué que pour les populations qui restaient dans ces territoires, qui n'étaient pas parties depuis longtemps, c'était peu à peu inscrit une certitude inéluctable. C'est que le pire seul pouvait advenir. tout espoir dans un avenir riant et désirable avait disparu. Et donc, cela entraîne un repli généralisé. Si on n'espère plus rien de l'avenir, cela dissuade totalement de s'engager. Et de fait, toute vie sociale, artistique, syndicale avait disparu. Comme on ne croit pas en l'avenir, on prête une oreille intéressée à ceux qui proposent de remplacer l'avenir par le retour au passé, qu'est le discours des partis d'extrême droite, et notamment de Madame Marine Le Pen, qui avait attiré déjà à l'époque, c'était 2013, plus de 40% de leur suffrage, de 40 et ça allait jusqu'à certains endroits, 60% de leur suffrage, tout à fait considérable. J'étais tellement épouvanté de cela que j'étais allé en parler au président de la République en un déjeuner que nous avons eu à l'Élysée avec lui, François Hollande, en 2014, avant de m'engager, en avril, avant de m'engager pour ma deuxième diagonale depuis la Pointe du Raz jusqu'à Menton. Et je lui avais dit, vous savez, monsieur le président, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas quelque chose, si on n'essaye pas de lancer comme un plan Marshall des territoires oubliés de la République, alors des pans entiers de la population française sont certainement prêts à faire sécession d'un discours gestionnaire raisonnable ordinaire. Voilà. Et ce sont les territoires, toutes les études le démontrent, ce sont les territoires où sont nés les Gilets jaunes. Et ça explique les caractéristiques, évidemment, de ce mouvement. Premièrement, même si ce n'est pas totalement le cas, mais c'est la première fois depuis les années 30 qu'un mouvement social légitime est aussi profondément enraciné dans un vote d'extrême droite. Rappelle naturellement toutes les manifestations des années 30. Deuxièmement, comme ces gens-là ne connaissaient pas de vie associative, n'étaient pas syndiqués, etc., beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur un programme commun au-delà de Macron démission. Troisièmement, quand ils se sont retrouvés sur les ronds-points, alors qu'ils étaient chacun dans leur coin auparavant, ils ont vu cette chaude solidarité qui est la socialisation des ronds-points. Donc toutes les caractéristiques du mouvement des Gilets jaunes, sa violence, la fréquence avec laquelle on a vu des manifestations, c'est vrai, anti-maçonniques, au départ plutôt racistes, anti-immigrés, antisémites pratiquement tout au long, au début. On a vu cela, oui, oui, ça c'est réel, j'en ai moi-même plusieurs exemples. Vient simplement de ce que ces populations-là, pour une partie, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas sincèrement malheureuses, qu'elles n'avaient pas toutes les raisons de protester, étaient des électeurs de l'extrême droite. Voilà. Et ça, c'était une réalité. Et encore aujourd'hui, bon, les choses sont très difficiles, on ne va pas parler de la vie politique actuelle, mais encore aujourd'hui, lorsque et si la crise actuelle peut être surmontée, il faut vraiment penser à une politique volontariste. Car voyez-vous, dans ces territoires-là, la seule logique économique mondialisée signe leur perte. Si on veut que, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui vivent dans ces territoires, et que la politique, c'est aider à la vie des femmes et des hommes, si on veut véritablement que ces personnes puissent y vivre, puissent y déployer une vie humaine, il y faut une politique qui ne soit pas simplement la soumission aux règles économiques internationales, il y faut du volontarisme. Voilà quel est le message.
Oui, je pense que dans toutes les pages que vous consacrez à cette France-là, appelée la France oubliée, la France des invisibles, on peut multiplier les adjectifs ainsi, mais on a compris ce dont il s'agissait. Au-delà des difficultés économiques du moment, qui sont réelles, enfin du moment, ça commence à durer un petit peu quand même, hein, la désindustrialisation, ça date pas d'hier, ça date pas de Macron.
Non, ça a commencé à 40 ans.
Voilà. Donc, il faut comprendre aussi que...
Moi, je l'ai décrit bien avant que Macron même soit un homme connu.
Oui, et que plusieurs générations ont déjà connu ce dépérissement dans ces zones-là. Est-ce que un des points clés sur lequel vous revenez, c'est l'absence de commun? C'est-à-dire que ce sont des zones où le commun a disparu, vous l'écrivez très bien, je voudrais que vous reveniez sur ce terme, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme vous semblez le sous-entendre, une absence de place dans le discours qui est celui de la France d'aujourd'hui? Parce que vous dites ils ne se sentent pas d'avenir, mais l'avenir tel qu'il est décrit les met hors jeu par définition, ils n'ont pas de place dans un nouveau grand récit, ils sont orphelins du grand récit qui était celui de la France et de la République française.
En effet, et je suis arrivé à cette observation en me demandant pour quelles raisons certaines régions qui étaient nullement plus favorisées en ressources naturelles, nullement plus favorisées quant à l'image qu'elles avaient aux yeux du reste de la France, étaient considérablement moins dégradées, avaient beaucoup moins de difficultés que les autres. Pensez donc dans les Mauges, qui est au sud de la Loire, dans le Maine-et-Loire. Il y a moins de chômage que dans la moyenne nationale, alors qu'il n'y a aucune richesse naturelle. Et comme sont les régions qui se sont révoltées en 1793 contre la République, ils ont toujours été considérés comme des mauvaises gens. La République n'a jamais eu les yeux de chimène pour ces mauvaises gens. Donc vraiment, extrêmement peu aidé. Et pourtant, un dynamisme fantastique dans n'importe quel village, pratiquement une manufacture, une agriculture intensive. Dans le Choletais, le chômage a un peu augmenté, mais il reste à 8,5%. Inférieur à la moyenne nationale, donc c'est tout à fait étonnant, comparé à la diagonale du vide dont je vous parle. Et cela est vrai dans toute la France. Les territoires qui vont le moins mal, certains franchement pas mal du tout, mais vont le moins mal, ce sont ceux dans lesquels a persisté, pour des raisons diverses, une fierté identitaire de leur territoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la dureté des temps, chacun, c'est naturel, essaye de s'en tirer par lui-même, aussi bien dans les territoires fiers que dans les territoires qui le sont moins. Mais lorsqu'il y a un désir partagé de défendre une image, de défendre une beauté, de défendre une histoire d'un territoire, il y a conjonction de deux énergies. L'énergie que l'on consent pour s'en tirer soi-même et l'énergie que l'on met en commun pour arriver à tirer de l'ornière le territoire. Eh bien, tout simplement, deux énergies, ça fait mieux qu'une. Et ces territoires s'en tirent toujours beaucoup mieux. C'est vrai aussi du Pays Basque. Le Pays Basque était au début du XXe siècle incroyablement pauvre. Vous savez que la raison pour laquelle les huisseries sont en rouge, c'est que comme il n'y avait pas de peinture, c'était avec du sang de bœuf que l'on repeignait. Et sur la côte, c'était dans le labour, c'était avec ce qui restait de la peinture des bateaux. Ça explique à peu près tout, etc. Aujourd'hui, évidemment, la fierté d'être basque est tout à fait incroyable. Et aujourd'hui, c'est un territoire incroyablement dynamique. Mais ça vaut pour la Bretagne aussi. La Bretagne a des soucis, va mal. Mais la Bretagne fait vivre encore 3 600 000 personnes, donc c'est un des territoires qui a, c'est le moins dépeuplé en réalité, et avec 90% des personnes qui travaillent, c'est-à-dire que le chômage est inférieur à 10%. À 9%, il est un peu inférieur à la moyenne nationale. Et donc c'est un élément qui est tout à fait fondamental, et en effet, le terme de commun est ce qui va mobiliser l'énergie que l'on met en commun pour un bien commun que l'on considère être un bien commun. Et ça, ça vaut aussi, vous avez raison de le souligner, pour la nation. C'est un formidable stimulant du succès ou de la résistance d'une nation que ce patriotisme-là.
Le terme de commun, précisément, au fil de ces deux trajets-là, c'est un constat que vous avez établi, mais qui vient de loin. On l'a dit, le Pays Basque, c'est une identité très forte de toute éternité, je pense, et tout de suite construite dans l'adversité. On pourrait en dire de la même chose de la Bretagne, qui était très pauvre aussi. Voyez-vous des moyens de le réinsuffler? Parce que de fait, si l'on suit un peu l'actualité, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est une sorte d'archipélisation, de lutte de tous contre tous, communauté contre communauté, mais aussi individu contre individu, ce qui est un peu inscrit dans l'ADN, je parle devant un généticien, mais de l'idéologie contemporaine. L'individualisme, une forme de narcissisme. Comment fait-on pour retricoter les choses?
C'est pas facile, mais tout d'abord, simplement une observation très rapide. Quand je parle comme je viens de le faire, on me dit « mais vous n'êtes pas du tout dans le sens de l'histoire, le sens de la nation, le sens de l'Europe. Vous parlez des territoires, comme l'extrême droite d'une certaine manière. » Et moi j'explique aux gens « non, vous vous trompez. Les gens qui sont dans le malheur, dans le déni de la possibilité d'un avenir désirable, chacun dans son coin, pour eux, en dehors de leur coin, tout est incroyablement loin. » Mais si moi je suis là en Bretagne, attaché à la Bretagne, à son histoire, à ses pardons, à tout ce que vous voulez, très attaché à la Bretagne. Évidemment, attaché à la Bretagne, je suis attaché à l'histoire commune entre la Bretagne et la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire, le problème de Nantes, et puis de fil en aiguille à la France et à sa position en Europe. Il y a beaucoup moins loin de moi le Breton attaché à la Bretagne, à la France et à l'Europe que de la personne, la femme ou l'homme qui sont au fond de leur trou et qui ne croient en rien. Et qui ne voit qu'un univers maussade en dehors de ce trou qui lui-même n'est pas extrêmement fulgurant. Et donc, je crois que bien considérer l'attachement à ce lieu que l'on est prêt à défendre rapproche plus de la nation, de l'Europe, du monde, que cela en éloigne.
Donc, pour les pouvoirs publics, la nécessité, c'est de se préoccuper de ces territoires.
Oui, alors il y a deux choses. Pour les pouvoirs publics, les deux éléments, c'est pas facile, mais les deux éléments. Il faut rendre, ça c'est fondamental, il faut rendre un certain optimisme de l'avenir. Il faut arriver à trouver les mots, la manière, les projets pour que les personnes voient un avenir en partie désirable et atteignable pour l'atteinte duquel ça vaut la peine de retrousser les manches. Ça c'est un point qui est tout à fait absolument fondamental. L'outil pour le faire, ça je reviens car je l'ai proposé, ce serait effectivement, de la part de la République française, le lancement de ce plan Marshall des territoires oubliés de la République qui ne va pas faire totalement fi naturellement des réalités économiques, personne ne le pourrait, mais qui va le faire avec volontarisme, en disant, moi, représentant politique, je dois connaître la contrainte des réalités économiques, mais mon but, c'est pas que l'économie simplement marche bien. Mon but, c'est de me servir de l'économie pour que les gens soient heureux s'ils peuvent l'être. C'est ça mon but. Et donc, il y faut réellement du volontarisme. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que ça marche, c'est que, il y a de nombreux exemples, j'en donne dans mon livre, suivant certains des maires, suivant des élus locaux, eh ben, il y a des territoires qui s'en tirent grâce à ce volontarisme de leurs élus considérablement mieux que d'autres. Considérablement mieux.
Oui, finalement, c'est peut-être refaire de la politique, hein, au sens, tout simplement au sens noble du terme, refaire de la politique ce qui tient ensemble, ce qui permet d'avoir des projets en commun, justement. Mais quittons ces, non pas ces territoires-là, bien au contraire, mais ces considérations d'actualité pour revenir justement dans ces territoires. Votre livre peut contribuer à rendre cette fierté qui manque, car c'est aussi un hymne à la beauté de ces territoires, car il ne faudrait pas croire que d'un côté il y a la laideur et le désastre, et de l'autre des paysages formidables.
Non, les Ardennes, c'est voilà. Les Ardennes, ça fait partie des territoires les plus beaux que je connais. J'ai des hit-parades de la beauté dans mes traversées, et il y en a deux qui sont des territoires terriblement éprouvés. Il y a les Ardennes. Quand vous êtes sur le plateau ardennais, là, à 500-550 mètres d'altitude, que vous arrivez au rebord, là où, à l'emporte-pièce, les méandres de la Meuse ont creusé une espèce de falaise de 200-300 mètres, c'est d'une beauté à couper le souffle, à couper le souffle. Et de la même manière, quand vous êtes juste entre la Loire et l'Auvergne, entre le Puy-de-Dôme et la Loire, sur la crête, les hautes chaumes du Forez. La Loire est dans un état, comme chacun le sait, totalement épouvantable. Vous êtes dans une région d'une beauté saisissante. J'en ai, là encore, pleuré par grand vent le jour où je me suis retrouvé à Haute-Pierre, au point culminant des hautes chaumes. Et donc, il y a des raisons d'être fier, y compris de ces territoires. Le problème, en fait, on ne peut pas du tout interpréter mes propos comme si c'était une disqualification de la qualité humaine des gens qui y résident. Mais je donne un exemple. Quand vous êtes en Bretagne, il y a des Bretons en Bretagne, figurez-vous. Quand vous êtes au Pays Basque, il y a des Basques. Et quand vous êtes au Béarn, il y a des Béarnais qui sont soumis à des difficultés. Mais l'histoire a fait que dans des territoires comme Mulhouse, je prends l'exemple de Mulhouse. Mulhouse, il y a en 1750 5000 habitants. Et puis, il va y en avoir 8000 en 1793, je crois, lorsque Mulhouse rejoint la République française. Il y en a 100 000 en 1850 et il y en a 200 000 au début du 19e siècle. Évidemment, ce n'est pas des habitants du coin. Ils sont venus parce que le textile embauchait. Ils sont venus de partout. Et lorsque le textile a cessé d'embaucher, ben, ils ont quitté en partie, il en est resté. On ne peut pas exactement attendre de la part de ces populations qui ont connu la difficulté le même rapport. Déjà, pour certains, il y en a, mais attendre exactement le même rapport naturel au territoire que celui qui unit le Breton à la Bretagne.
Toutefois, lorsqu'on vous décrivait, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un en France qui connaît aussi bien le pays que vous, parce que
il y en a pas
traversé dans tous les sens.
Il n'y en a pas beaucoup.
Jusqu'au plus petit sentier.
J'ai calculé que j'avais marché à environ 100 000 km en France. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont marché environ 100 000 km en France.
Oui, il y a beaucoup de grands marcheurs, il y a beaucoup parmi les écrivains. Enfin, je pense à Tesson, par exemple, mais il s'est contenté de faire une seule des deux diagonales. Toutefois, est-ce que dans le malaise quand même qui est perceptible dans nos sociétés, cette reconnexion au pays, cette reconnexion à la nature, dans sa profondeur historique, dans son épaisseur géologique même, n'est pas aussi ce qu'il faudrait promouvoir? Je pense à des programmes de type Erasmus qui existent pour faire découvrir le vaste monde aux étudiants aujourd'hui, c'est tout à fait vrai, mais est-ce que l'urgence est nécessaire et bénéfique? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à redécouvrir simplement même son prochain, l'Auvergnat, le Corrézien, le Meusien,
voilà,
et recréer du lien, du commun, justement.
Tout ce qui va stimuler la fierté des habitants, même dans le domaine culturel, et souvent la culture est le moyen d'y parvenir, n'aura pas que des conséquences culturelles, mais aura aussi des conséquences économiques, car donnant du ressort aux habitants. Ça, c'est un point qui est fondamental. C'est difficile. Lorsque vous faites dans un petit village une manifestation culturelle attirant énormément de gens de l'extérieur, il y a un danger. C'est que les gens du village se sentent exclus pratiquement de cela. Notre maire, regardez, eh ben, il attire des gens, mais ce n'est pas pour nous. C'est un problème important. Et ceux qui vivent bien cela ont le même objectif, une grande manifestation culturelle, musicale, folklorique, littéraire. Il y en a partout en France, il y a énormément d'initiatives en France. Mais pour y parvenir, commence par mobiliser massivement la population. Et quand une manifestation est un succès, et quand chacun pratiquement qui s'est mobilisé, les centaines de personnes de ce village qui sont mobilisées pour le succès, et qui voient le succès, eh bien comme tout le monde, ils sont éperdument fiers du succès. Et étant éperdument fiers du succès, ils se disent que tout n'est pas perdu. Ils peuvent également remporter un succès dans d'autres domaines. Et puis même, ils développent la curiosité de ce à quoi ils ont contribué et qui a attiré tant de gens. Et donc, c'est également un effort positif et un mouvement d'acculturation, d'amélioration de l'acculturation de la population locale. Donc, on voit très bien que dans ces stratégies, il n'y a en réalité que des bénéfices. Et j'en ai vu, j'en décris plusieurs exemples. Ce n'est pas purement théorique, ce que je vous dis là.
Oui, c'est ce que vous nous dites, c'est que ces territoires recèlent un dynamisme qu'on ne soupçonne pas lorsqu'on ne va pas à sa rencontre.
Il y a dans la ruralité, les territoires les plus difficiles, ce sont les territoires post-industriels. Le vrai malheur français, c'est dans les territoires post-industriels. On parlait de Houellebecq tout à l'heure. Sérotonine parle de la campagne est extrêmement sombre. Et de fait, c'est difficile parce qu'on a perdu 90% des paysans. Et donc, la solitude, les difficultés financières, il n'empêche que vous ne pouvez pas comparer. Il y a des friches industrielles partout, il n'y a pas de friches agricoles. Il y a des territoires post-industriels où on ne crée plus de richesse, on en consomme simplement, alors que dans les campagnes, malgré tous les efforts, les incertitudes, on continue réellement de produire des richesses. Et puis, il y a dans la ruralité, dans la vraie ruralité, une diversité extraordinaire d'initiatives que les citadins ne soupçonnent pas. Et il y a souvent une description misérabiliste des campagnes qui simplement est fausse. D'ailleurs, la ruralité vraie, celle qui n'est pas dépendante des petits bourgs qui ont perdu leurs usines, leurs manufactures dont j'ai parlé tout à l'heure. Depuis le début de notre siècle, du 21e siècle, c'est plutôt repeuplé, a gagné 10 à 15% de la population. Maintenant, c'est plutôt dans plateau, mais entre 2000 et 2015-2016, avait gagné près de 15% de population. Donc, il y a un vrai dynamisme de la ruralité. Il faut simplement l'aider. Il faut que, pour les gens qui veulent, par exemple, profiter de ce retour à la campagne, la connexion rapide, Internet et la fibre permettent d'échanger, permettent de travailler le cas échéant. Il faut trouver un système et une solution pour le désert médical. Il faut que les familles puissent vraiment s'en mettre en danger leurs enfants, pouvoir y aller, fonder famille, agrandir la famille, etc. Tout cela, c'est possible, il y a un mouvement. Il faut en prendre compte, je crois.
Alors, que conseillez-vous à nos auditeurs en guise de conclusion? Parce qu'on a des considérations très collectives, et c'est nécessaire, parce que c'est vraiment ce qui manque le plus. En guise de conclusion, que conseiller à nos auditeurs pour se reconnecter avec le réel, avec eux-mêmes,
je leur conseille de prendre leur canif ou d'en acheter un, s'ils n'en ont pas, tous les citadins n'ont pas de canif. Moi, ça me semblerait inouï d'être comme ça, de vivre sans canif, de prendre leur couteau, de venir avec moi en forêt, de se tailler un bâton, le cas échéant de mettre un bout de ferraille au bout du bâton pour qu'il ne s'use pas trop vite, et puis ensuite de venir avec moi et de cheminer un peu avec moi, dans la réalité, dans la difficulté et dans la beauté. Et ils verront alors qu'à travers l'effort, à travers la pensée, à travers cet exercice, voyez-vous, monsieur, on peut vivre heureux.
Merci beaucoup. Il y a un chemin, et c'est bien un chemin de vie. Je pense que chacun l'aura compris. Et pour le poursuivre et enrichir ces conseils de votre expérience, car c'est aussi ça la vie, bénéficier de l'expérience des anciens, de ceux qui ont déjà vécu le chemin et qui montrent la voie, ils peuvent se plonger dans votre ouvrage, dont je rappelle les références. Il s'agit de Chemin au pluriel par Axel Kahn aux éditions Stock. Merci encore, monsieur.
Au revoir.
Thank you.